Paul Bourget, une Lamorantine. Marcel Bréchet, professeur de seconde au lycée de Nevers, sortait de sa classe en discutant avec son collègue de première, Émile Chardon. L'un et l'autre se lamentaient sur la décadence des études classiques. « Pas un de mes élèves qui soit capable de me traduire une page de latin à un livre ouvert, » disait Bréchet. « Et pas un des miens, » répondait son ami, « qui sache composer un thème sans solécisme. Oh, c'est à désespérer de notre métier si l'on continue à nous inonder de primaires. » Et quand je lis les copies des lauréats de l'ancien concours général, reprit Bréchet, « oh, je vois ce que valaient les humanités d'autrefois. Quel devoir que ceux d'un Sainte-Beuve, d'un Taine, d'un Michelet, pour ne citer que trois noms entre des centaines. Aussi ai-je décidé, dit l'autre, de quitter l'alma mater. Mon année finie, j'entre dans la presse. Un de mes premiers articles sera sur ton Janus, si tu persévères dans ton idée de cette thèse. Car où te mènera-t-elle ? À une chaire de faculté, répondit Bréchet. C'est toute l'ambition de mon père. Pense donc, il est fonctionnaire dans le sang, par réaction contre les à-coups de l'existence de mon grand-père, l'industriel. Il ne m'a laissé entrer dans l'université qu'à la condition que j'y ferais ma carrière. Il veut que je finisse recteur, comme il a fini trésorier payeur général à Auxerre. « Mais voilà qui est prodigieux !» s'écria-t-il en s'arrêtant. « Lui ici, oh, mais pourvu qu'il ne soit rien arrivé à maman !» Il venait d'apercevoir à l'extrémité de la rue Saint-Étienne, qui jouxte le lycée, la silhouette de son père, immobile et l'attendant. Le fonctionnaire retraité se déplaçait si rarement que sa seule présence indiquait un événement d'autant plus extraordinaire qu'il n'avait même pas annoncé sa venue à son fils. Il habitait près d'Avallon, à Montigny, petit village qui domine la Cure, retiré là sur un domaine appartenant à sa femme. Il avait dû, pour être à Nevers à l'heure de la sortie des classes, prendre le premier train du matin. « Ta mère est donc malade ?» interrogea Chardon. « Non, elle n'était pas hier. Ben, si elle était aujourd'hui, ton père t'aurait averti par téléphone. » Oh, il a l'air tellement préoccupé, mais il nous a vus. Adieu, Émile. Fais-moi te dire des nouvelles, répondit l'autre. Tire simplement ton mouchoir de ta poche s'il n'y a rien de ce que tu crains et que tu te sois fait, comme à ton habitude, un cachot en Espagne, style Champfort. Quel ami, répondit Bréchet en serrant la main de son collègue, auquel deux minutes plus tard, il adressait le signe promis. À sa question « Ma mère ne va pas plus mal ?» Son père avait répondu aussitôt « Non, plutôt mieux. Son cœur bat toujours un peu la chamade. Ce sont des arythmies purement nerveuses qui n'exigent pas encore la digitale. L'aspartéine suffit, mais ayant une décision grave à prendre, et tout de suite, je pensais qu'il était plus sage pour lui éviter une émotion d'en causer en tête-à-tête avec toi, d'autant plus que la chose te concerne un peu. Moi ? Dit Marcel. Oui, indirectement, mais j'aurais scrupule de ne pas t'avoir demandé ton avis. Tu sais mes relations avec ton grand-père, ou plutôt mon absence de relations. Il n'est pas malade ? Demanda le jeune homme du même accent qu'il avait tout à l'heure pour communiquer à Chardon son sursaut d'inquiétude. Celui-ci avait trop raison d'appliquer à cet inquiet l'à peu près épigrammatique de Champfort. « Non, 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 mais il m'a écrit pour la première fois depuis des années. Quand j'ai reconnu l'écriture sur l'enveloppe, j'ai espéré un mouvement de cœur qui nous rapprocherait. Et comme Marcel lui avait pris la main et la lui serrait, « Lis la lettre, continua-t-il, tu constateras que c'est toujours la même chose. » Marcel avait pris l'enveloppe que lui tendait son père. Il put voir à sa déchirure qu'elle avait été ouverte nerveusement, alors que l'ancien trésorier payeur général appliquait d'habitude aux choses de sa correspondance le soin le plus méticuleux. Un des innombrables petits signes de la discipline de son ancien métier. La brouille entre son père et son grand-père était un des chagrins intimes de Marcel. Ses doigts à lui-même tremblaient un peu pour déplier le feuillet qui contenait seulement quelques lignes. Elles avaient pour lui une signification trop pénible. Il s'agissait d'une demande d'argent, et c'était la fréquence de pareilles requêtes qui avait irrévocablement séparé les deux hommes. Mon cher Antoine, disait cette lettre, si je m'adresse à toi comme je le fais, malgré la suppression de tout rapport entre nous depuis 14 ans, c'est que j'y suis forcé par une nécessité très urgente. Tu as une fortune établie et liquide. Je suis en bonne voie de refaire la mienne, mais je ne peux pas disposer d'un capital comme celui dont j'ai besoin immédiatement, 100 000 francs. Si tu l'exiges, je t'expliquerai de vive voix le motif de cette lourde dépense. Fixe-moi un rendez-vous à la date et à l'endroit qui te conviendront. Mais je te donne dès aujourd'hui ma parole que le service que je te demande touche à mon honneur. Ce service, tu peux me le rendre sans te gêner, et moi je considérerai cette avance comme un prêt. Je m'en acquitterai aux échéances et j'ajoute aux intérêts que tu voudras bien fixer toi-même. J'ajoute encore que le malentendu qui nous tient éloignés l'un de l'autre depuis si longtemps continue à m'être, avec la vieillesse commençante, d'autant plus pénible qu'il me prive de tout rapport avec toi d'abord, puis avec mon filleul, et je ne cesse pas de vous aimer tous les deux, croisant ton père avec le meilleur de mon cœur. La signature Marcelin Bréchet, tracée en caractères plus appuyés que ceux de la lettre, témoignait d'une émotion d'autant plus impressionnante que cette étrange missive avait été rédigée évidemment avec le parti pris d'éviter toute effusion sentimentale. Elle décelait entre les deux hommes un de ces drames familiaux, d'autant plus inapaisables que les événements n'y sont qu'une occasion de conflit entre d'irréductibles oppositions de caractère. Une partie de ces événements était connue du demi-filleul, car le parrainage du grand-père Marcelin avait été volontairement mutilé dans le prénom de Marcel par la mère qui haïssait son beau-père à cause de procédés que son mari avait résumés en tendant la lettre par ces mots si simples, mais chargé pour lui et pour sa femme d'un sens si pesant. « Oh, toujours la même chose !» Il les répéta, reprenant la lettre. Puis il se tut, tandis que son fils et lui contournaient la vieille église Saint-Étienne qui a baptisé la rue et dont la structure auvergnate faisait d'ordinaire quand il passait là l'objet de ses commentaires. C'est qu'il se souvenait, devant cette merveille du XIe siècle, d'une église de la même date, celle de Chauria dans le Puy-de-Dôme, associée à ses premières impressions d'adolescence. Chauria est tout voisin de Vertaison, dont les Brachets sont originaires. Disons dès à présent que ces Brachets se prétendaient les descendants du célèbre chirurgien de ce nom, Gilbert Bréchet, fils d'un tailleur du pays, qui fut l'élève de Bonnet, le restaurateur de l'enseignement de la médecine en Auvergne après la Révolution. Gilbert Bréchet finit comme professeur à la faculté de médecine de Paris et il remplaça Dupuis Trenin à l'Institut. Cette parenté imaginaire, fondée sur une similitude de noms, a joué un rôle trop décisif dans l'orientation de cette modeste famille pour qu'il n'eût pas lieu de l'indiquer aussitôt. « Eh bien, dit Marcel en interrompant ce pénible silence, il me semble que sous cette forme dont je comprends que la sécheresse vous est affectée, il n'y a pas seulement une demande d'un prêt d'argent. Ce mot d'honneur est un rappel à la solidarité du nom. C'est tout de même une tentative de rapprochement entre lui et nous. Oh, s'il n'y avait pas eu 10 fois des demandes d'argent analogues avant notre brouille et rédigées d'une manière plus ou moins habile, je penserais comme toi, mais il y a eu ces demandes et toujours à la suite de quelques désastres dans une de ces entreprises d'imprudentes affaires qu'il a si audacieusement multipliées. Et combien de fois? Il faut penser pourtant, répondit Marcel, que nous lui devons d'être nous. Mais oui, s'il n'avait pas eu à 20 ans cet esprit d'entreprise qui lui a fait vendre notre petite campagne de Vertaison pour fonder à Saint-Amand-Talande une usine de papier, mais que serions-nous? De pauvres cultivateurs, sans aucune instruction. Avec les premiers gains de cette usine, qui a si bien réussi d'abord, il a pu te mettre au lycée de Clermont. Ensuite, il a pris sur ses gains pour t'en diminuer, de quoi assurer ta préparation à la Cour des comptes et aux finances. Mais j'ai pas dit qu'il manquait de générosité, mais de prudence. S'il avait subordé cet esprit d'entreprise, il n'aurait pas quitté Saint-Amand, où pour lui il gagnait trop peu. Et le voilà montant cette société qui devait fournir à Clermont le gaz et l'électricité, en perçant dans la montagne des galeries souterraines pour dériver les eaux. Ben, il échoue, et voulant se rattraper, il fonde usine sur usine. Dentelles, tuiles, lacets, fabrication de vitraux, machines agricoles, coutellerie. Quelle est l'industrie familière à l'Auvergne dont il ne se soit occupé avec des alternatives de réussite et d'avortement, et des procès, et des procès. Le tout pour aboutir à cette installation à Paris, où il s'est occupé d'affaires de bourse et d'automobile. Et m'a-t-il assez souvent reproché à moi la médiocrité de ma vie de fonctionnaire? Mais être fonctionnaire, je te l'ai dit quand je t'ai conseillé d'entrer dans l'université, c'est le traitement assuré à la fin du mois, l'aide quand on est malade, la retraite dans la vieillesse, sans compter cette honorabilité qui permet d'entrer par le mariage dans une famille bien établie. Ainsi le mien, car enfin c'est par ta mère que nous avons ce domaine du Morvan où je compte bien achever mes jours, où monsieur le recteur Marcel Bréchet achèvera également les siens. Quel contraste entre ma destinée et celle de ton grand-père, dont je ne conteste pas les supériorités en intelligence et en initiative. Puis, montrant la lettre qu'il tenait encore à la main, « Et voilà le résultat. 100 000 francs empruntés, ce qui prouve que cette nouvelle entreprise de construction, où j'ai su par mon banquier qu'il s'est engagé, pourrait bien finir par la faillite. Mais quel est ce sens de ce mot d'honneur souligné? 100 000 francs. Je lui en ai avancé déjà tout autant, j'ai fait le compte depuis que mon mariage m'a mis à l'aise. Il faut lui rendre cette justice qu'il s'est toujours acquitté de ses dettes. Puis comme les demandes se multipliaient, j'ai, d'accord avec ta mère, couper court à ses avances avec l'espoir de la s'agir. C'est alors qu'il s'est brouillé avec nous sous le prétexte que nous n'avions pas de cœur. Pas de cœur, mais quand je n'ai pensé qu'à son intérêt. Encore aujourd'hui, pourquoi ai-je voulu te voir et te communiquer tout de suite cette lettre que ta mère ignore? Ce mot d'honneur, l'énormité du chiffre du prêt, l'idée d'une catastrophe possible, je n'ai pas cru pouvoir, dans une circonstance aussi énigmatique, m'abstenir de te parler à toi. Tu es l'héritier du nom et de la fortune. Alors que penses-tu? Je pense qu'en effet, il y a là une énigme et qu'il faut savoir la vérité. Ne pouvez-vous pas aller à Paris et vous informer? Mais comment expliquer mon voyage à ta mère? Dans son état de santé, je n'ose pas lui montrer cette lettre, et alors... Un nouveau silence tomba entre eux. « Mais toi, fit Antoine Bréchet, tu ne pourrais pas y aller à Paris et voir ton grand-père? » Voir mon grand-père ? Balbutia Marcel, que l'étonnement arrêta dans sa marche. Oui, je ne suis venu à Nevers que pour te demander cela. Alors, je devrais lui porter votre réponse, et quelle sera-t-elle ? Un refus, d'après les sentiments que vous m'avez exprimés sur sa lettre. Tu reconnais toi-même qu'il y a une énigme, et par conséquent, qu'une enquête est nécessaire. Et vous voulez me charger de cette enquête ? Oui, répondit le père. J'ai vu ton proviseur ce matin dès mon arrivée. Je lui ai dit qu'une affaire de famille très urgente exigeait ta présence à Paris. Il est si content de ton service qu'il est prêt à t'accorder un congé. Il veut seulement causer avec toi avant de téléphoner au recteur pour en fixer la durée d'après les besoins de ta classe. Ah, lui encore, c'est un fonctionnaire, à la fois strict et humain. Naturellement, je n'ai rien pu conclure de définitif sans avoir causé avec toi. Mais tu ne me feras pas cela de me refuser une démarche dont je t'expliquerai la nature quand tu auras accepté cette mission, car c'en est une, et que ton père te demande d'accepter. Il passait, dans l'accent d'ordinaire un peu solennel de l'ancien trésorier payeur général, une émotion contenue, d'autant plus touchante pour son fils, qu'il avait depuis longtemps deviné cette sensibilité secrète. Si pénible que lui fût cette démarche inattendue auprès de son grand-père, il n'eut pas la force d'opposer un refus à une demande exprimée avec cette voix, avec ce regard, et il s'entendit prononcer la phrase d'acceptation. « Je ferai ce que tu désires, mon père. »« Merci, » répondit Antoine Bréchet. « Tu es un bon fils, Marcel. Mais il n'y a pas de temps à perdre. D'après ce que m'a dit le proviseur, le maximum de ton absence doit être de 15 jours. Nous sommes aujourd'hui mercredi. Tu devras donc être rentré à Nevers pour l'autre jeudi, et il ne s'agit pas seulement de voir ton grand-père. L'enquête dont tu vas te charger suppose des recherches, de renseignements assez compliqués. Mais monte tout de suite chez le proviseur. Moi, je prends à 1 heure le train pour Avallon. Je vais à la gare. Tu me retrouveras là où nous déjeunerons. À ton hôtel, nous ne pourrions pas causer assez librement, et il faut que je te parle de choses plus graves encore que cette lettre de ton grand-père et qui doivent rester confidentielles. Des choses graves et qui doivent rester confidentielles, se disait le jeune homme 1 heure plus tard, après sa visite chez le proviseur, homme excellent et qui lui avait, en tout en lui accordant le congé demandé, conseillé d'utiliser son séjour à Paris pour faire quelques recherches profitables à la Bibliothèque nationale en vue de sa thèse sur Janus, tant il s'intéressait aux travaux et à l'avenir de son jeune professeur. Le temps de passer chez son ami Chardon pour lui annoncer ce subit voyage, et il marchait vite le long de la rue du Rempart, impatient de rejoindre son père et d'apprendre le mystère auquel celui-ci avait fait allusion. Marcel avait toujours eu l'idée que la brouille entre le correct fonctionnaire et l'aventureuse industrielle supposait quelques motifs secrets et étrangers à des questions pécuniaires, toujours correctement réglées, le fonctionnaire l'avouait lui-même. Les convictions religieuses de sa femme avaient dû la trouver plus implacable pour des écarts de conduite privée que le veuvage du grand-père justifiait aux yeux du monde, mais non pas pour une dévote sincère comme était Madame Bréchet. Il ne se trompait pas, et à peine assis en tête à tête dans un coin retiré du buffet, le père commença sur un ton embarrassé. « Ta mission, Marcel, est double. Elle se complique, je te répète le mot, d'une enquête dont j'aurais scrupule à te charger, s'il ne s'agissait pas, comme il le dit lui-même, ton grand-père, de notre honneur. Posons d'abord les faits. Tu arrives chez lui sans l'avoir prévenu. Il croit que tu lui apportes ma réponse à sa lettre. Il veut aussitôt savoir si elle est favorable, à moins que... Et si je lui dis aussitôt qu'elle ne l'est pas? Tu lui cites les termes même de sa lettre et sa promesse de s'expliquer de vive voix sur le motif de sa demande. Oui, mais à vous. Mais tu me représentes. Mais je le connais, il est probable qu'il n'a pas cherché auprès de moi seul ses 100 000 francs, et dans les 48 heures écoulées entre l'envoi de sa lettre et ta venue, il les aura demandés, trouvés peut-être ailleurs. Auquel cas, il te laissera parler le premier sans t'interroger, d'autant plus qu'il aurait sans doute quelque honte à te donner certaines explications. Tu dois bien penser que notre rupture officielle ne m'empêche pas de recueillir les moindres détails qui peuvent m'initier à son existence. Je ne dois le faire qu'avec une discrétion qui ne me permet pas d'obtenir des renseignements très précis. J'ai su cependant qu'il n'a pas toujours vécu comme son âge et sa situation de chef de famille, il le reste malgré tout, lui en faisait un devoir. Or il m'est revenu, cet an dernier, qu'il passait pour s'intéresser beaucoup à une jeune fille, une mademoiselle Paul Gauthier, qui exerce une profession dont le nom t'étonnera, comme il m'a étonné, c'est une laborantine. « Oh, ma qualité d'universitaire, dit Marcel, j'en sais le sens, moi, de ce mot, d'ailleurs très récent. Il est officiel et s'applique aux infirmières particulièrement instruites en chimie ou en bactériologie, qui travaillent exclusivement dans les laboratoires, les labos, comme elles disent elles-mêmes. Peut-être grand-père a-t-il été souffrant et a-t-il dû se faire une prise de sang par une de ces personnes qui l'aura trouvé sérieuse et travailleuse. Elle est en tout cas fort jolie, interrompit Antoine Bréchet, et les 100 000 francs pourraient bien être destinés à une de ces réparations d'honneur que ces demoiselles ont le talent d'assurer. Comment voulez-vous que je le sache? Je t'ai parlé d'une enquête, insista le père. Il faut aussi que tu te renseignes sur cette société de construction dans les quartiers du bois de Boulogne qu'occupaient les fortifications. On y a fait allusion aussi. Y a-t-il pas là quelque nouvelle aventure de bourse? Mais cette petite campagne n'est guère dans mon rayon pour parler comme les gens du commerce. « Alors tu refuses ?» demanda le père, après un nouveau silence. « Je ne peux pourtant pas laisser une telle lettre sans réponse. Et quitter Montigny, c'est s'inquiéter la pauvre mère et risquer une petite crise. »« Eh bien, dit Marcel avec fermeté, j'irai à Paris. » Il ajouta, « Le proviseur m'a d'ailleurs suggéré de prendre à la Bibliothèque nationale quelques notes pour ma thèse sur Janus. » Voilà qui est bien, dit Antoine Bréchet. Ce conseil, je te l'aurais donné moi-même. Tu es un professeur est un fonctionnaire. Il doit penser à son métier à travers tout. D'ailleurs, cette thèse, c'est la raison de ton voyage que je donnerai à ta mère. Il faut que je puisse lui montrer toutes tes lettres. Pas un mot par conséquent sur les visites à ton grand-père et sur le résultat de ton enquête. Tu ne me parleras que de ton travail. En rentrant à Nevers, tu me diras ce que tu auras découvert, et si tu estimes que nous devons ou non avancer les 100 000 francs. Mais il m'est si dur de le refuser, cette avance, mais c'est une grosse somme et qui nous sera certainement rendue. De cela non plus, pas un mot à ton grand-père, si vous touchez à cette question d'argent. Il est très fier et la moindre idée d'un doute sur ce règlement le froisserait. Et puis, mon enfant, sache que tu m'es bien secourable en consentant cette pénible démarche. Chapitre 2. Au lendemain de cette conversation angoissante, Marcel Bréchet, sur les 8 heures du matin, descendait à Paris du train de Nevers, fidèle à la promesse faite à son père. Il avait voulu prendre le rapide de nuit, par un scrupule où ce père aurait recouvré le sens du métier qu'il aimait à transmettre à son fils. Le professeur avait un reliquat de copies à corriger. Il avait tenu à les finir pour les laisser annoter au maître d'études qui devait le remplacer. Cette besogne achevée, parmi les préparatifs de son départ, avait un peu trompé son anxiété, qui le reprit plus forte dans le train. Quel homme allait-il trouver dans ce grand-père, demeurait pour lui une énigme. Il comptait à peine 12 ans, loin de la rupture entre Antoine et Marcelin Bréchet, dont le nom n'avait plus jamais été prononcé dans la maison. Les tragédies de famille silencieuses sont les plus torturantes pour les jeunes sensibilités, chez lesquelles les faits qu'elles ignorent et dont elles subissent le poids servent de prétexte à des imaginations invérifiables et d'autant plus vives. Quoique les fonctions exercées par son père en province, d'abord de receveur puis de trésorier-payeur général, n'eût jamais permis un contact direct avec l'industriel toujours occupé à Paris, celui-ci restait dans le souvenir de son petit-fils comme un homme très affectueux, d'une conversation fascinante, et qui, dans ses trop rares passages, le gâtait beaucoup. Il avait également su par ses visites à Vertaison, il le rappelait à son père dans leur entretien, quelle saute de milieu avait assuré au sien l'énergie et l'esprit d'entreprise de l'homme d'affaires. Sans lui et ses audaces, les Bréchet restaient de gros paysans. Ils ne devenaient pas les bourgeois cultivés qu'ils étaient devenus. Marcel comprenait maintenant que les quémandages d'argent dont se plaignait son père n'étaient pas l'unique cause d'une brouille qui touchait à l'ingratitude. Il se rendait bien compte que l'influence de sa mère, dont il pressentait maintenant les raisons, avait aggravé les sévérités du fils contre son père, dépensier et peu délicat. Quel incident nouveau allait lui révéler dans cet ordre l'enquête qu'il avait accepté d'entreprendre et dont les difficultés lui apparaissaient au terme de ce voyage insomniaque comme insoluble. En touchant du pied le seuil du quai de la gare de Lyon, il fut tenté de reprendre aussitôt le train de retour. Et puis l'implorante phrase de son père, ce « tu m'es bien secourable » lui revenait. Oh, ce serait une lâcheté, se dit-il. Et il est là, un taxi, pour lui donner l'adresse du paisible hôtel de la rue des Écoles, où il avait retenu son logement par dépêche, et qui, tout voisin de la vieille Sorbonne, portait le nom du collège fondé par Mazarin, les Quatre Nations. « L'université me poursuit !» se disait-il encore, quand la voiture s'arrêta devant la porte de la modeste maison où il avait séjourné lors de ses examens d'agrégation. « J'avais tant d'espérance alors, » songeait-il, et le souvenir de la traite intellectuelle que lui avait représenté son métier de professeur s'accompagnait d'un renouveau de la répulsion commune à Chardon et à lui, contre la monotonie de cette carrière et contre la sécheresse forcée de ses études actuelles. Cependant, il ouvrait sa valise, il rangeait ses petits bibelots et les papiers relatifs à son Janus dans cette chambre située par hasard, porte à porte, à côté de la pièce où il préparait autrefois son agrégation. Le sentiment de sa détresse actuelle fut si fort qu'il demanda aussitôt l'annuaire du téléphone pour y chercher le numéro de l'appartement où logeait son grand-père au boulevard Suchet. Puis, quand, descendu au bureau de l'hôtel, il eut disposé les lettres sur l'automatique, il raccrocha soudain le récepteur. « Oh, je ne suis pas assez maître de moi, » se dit-il. J'irai cet après-midi. Le plus sage est de commencer par mes recherches sur cette laborantine. Si Cortés se trouve à Paris, c'est lui qui pourra le mieux me renseigner. Mais travaille-t-il toujours à la Hennec ? C'était le nom d'un de ses camarades d'enfance internes dans les hôpitaux de Paris. Les deux jeunes gens s'étaient toujours montrés une chaude affection et restaient en correspondance l'un avec l'autre, assez irrégulièrement mais très amicalement. L'annuaire permit à Marcel d'entrer aussitôt en communication avec l'hôpital. 5 minutes plus tard, il entendait la voix de son camarade d'Auxerre lui répondre avec le plus joyeux accent « Oh toi, à Paris, oh, nous déjeunons ensemble, viens à la Hennec à midi. Vite, je te quitte car je cours aider mon patron qui va faire une opération passionnante. » Passionnante, une opération, se répétait le pauvre professeur en s'acheminant à l'heure dite vers l'hôpital de la rue de Sèvres. Faut-il qu'il aime, lui, son métier ? Cette opération passionnante, quelle était-elle ? Demanda-t-il d'abord à Cortet, qui l'attendait à la salle de garde, encore vêtu de sa blouse d'interne. « Mais une craniectomie pour tumeur du cervelet, » répondit Cortet. « Oh, je voudrais que tu vois ce trépan. C'est un prodige d'intelligence actionné par une machine électrique. Il est bloqué dès qu'il ne rencontre plus de résistance. Il s'arrêtera juste à la dure mer, sans l'entamer. Oh, quelle merveille !» Marcel Bréchet, malgré la fatigue du voyage et l'énervement de l'insomnie, retrouvait, à constater l'enthousiasme de Cortet, ce vif intérêt que lui donnaient toujours les choses intellectuelles. « Comme je t'envie, » dit-il à Cortet, « moi qui suis à Paris pour m'occuper de ma thèse sur le culte de Janus dans le monde romain. » « Et moi, » répondit Cortet en riant, « je bénis Janus qui me fait retrouver mon vieux copain. Tu es libre pour déjeuner ?» Et sur un signe de son ami, « attends quelques instants, le temps d'enlever ma blouse, de me faire remplacer pour 2 heures à la salle de garde. » 20 minutes plus tard, ils s'asseyaient l'un à côté de l'autre à la terrasse d'un restaurant du boulevard Montparnasse, dont l'enseigne annonçait qu'il pratiquait la spécialité des mets régionaux. « Bon, nous sommes jeudi, » fit l'interne en consultant la carte. « Oh, justement le jour de notre pays. Ah, nous allons voir si les plats morvandiaux d'aujourd'hui valent ceux de notre jeunesse. Tu te rappelles ce jambon à la crème qui faisait nos délices à Auxerre ? Oh, il faut que je t'organise un peu de plaisir à Paris pour te reposer le soir de ton Olympien. Malheureusement, mon service d'hôpital me laisse pas beaucoup de temps. » « Oui, mais celui qui te prend est si bien employé, à en juger par la séance de ce matin, » répondit Marcel. Le visage du carabin, bien régional lui-même, avec ses cheveux noirs plantés bas, ses yeux marrons et ses joues colorées, s'amertuma d'un mauvais sourire. « Bon, toutes les opérations ne se ressemblent pas, » dit-il. « Et puis c'est pas ça, la carrière. » La carrière, c'est les concours à passer. D'abord l'adjuvat, le professorat, le bureau central. 8 à 10 heures de travail forcené. Et puis les camarades, des concurrents, souvent envieux. Tu connais le proverbe, inuidia medicorum. Mauvais coucheur, rosse. Plus tard, il y a les clients et la bataille des honoraires. Et quand il s'agit des hauts postes, la tyrannie des facultaires officiels qui n'admet pas le talent libre. Bon, jusqu'ici, je n'ai pas eu à me plaindre. Le petit Morvandio fait son petit bonhomme de chemin, sans trop d'à-coups. Et quand je songe aux angoisses qui me sont réservées, oui, n'y en a-t-il pas, dit Marcel. « Mais dans ta profession à toi, » répondit Cortet, « tu as passé ton agrégation, tu passeras ta thèse, tu ne dépends pas de l'aléa des concours, de l'humeur des malades, tu dépends de tes idées. » Oh, si les choses sont comme tu le dis, objecta Marcel, qui apercevait le moyen d'amorcer l'enquête désirée par son père. Comment se fait-il que nous voyons tant de femmes entrer aujourd'hui dans les carrières médicales ou paramédicales? Précisément, continua-t-il, je suis chargé, durant ces quelques jours que je vais passer à Paris, d'une enquête sur une jeune fille employée à l'assistance publique et qui travaille dans un hôpital à titre de laborantine. Un métier nouveau, fit Corteil, toujours avec son mauvais sourire. Une carrière féminine de plus. La manie de notre temps, le progrès. Comme si une femme avait d'autre carrière raisonnable que de tenir son ménage et de faire des enfants. Si ta laborantine est dans un hôpital, elle est chimiste ou bactériologiste, c'est-à-dire spécialiste dans les microbes et les examens des inoculations au microscope. Ces filles gagnent de 700 à 1 000 francs par mois pour vivre parmi les bacilles et ensemencer des milieux de culture. Il leur faut avoir passé leur bachot et fait 3 ans d'études. Le progrès. Le progrès, répéta-t-il. Mais d'abord, comment s'appelle ta laborantine? Paul Gauthier, me répondit Marcel. Et que veux-tu savoir d'elle? Comment elle vit, si elle est sérieuse? Il s'agit d'un projet de mariage à Nevers, un peu pressé. Il avait rougi de son mensonge, et Corteil, interprétant ce passage d'embarras, lui demanda: Ce mariage, c'est le tien? Oh, pas le moins du monde, répliqua l'autre vivement. Tant mieux, fit son ami. Je vais me renseigner dès cet après-midi. Je saurai quel poste elle occupe. Gauthier, tu dis Paul Gauthier. Jolie ou laide, tu l'as rencontrée à Nevers? Non, jamais, j'ignore tout d'elle. Oh, si elle est jolie, il y a bien des chances pour qu'elle ne soit pas sage. Mais ça, c'est une opinion d'interne. Il y en a aussi de jolies qui sont sérieuses, comme tu dis. Celles-là visent le bon mariage. Là, il faut regarder de près, c'est pas commode. Tu y tiens beaucoup à ce renseignement? Beaucoup. Paul Gauthier, bon, je saurai ce soir à quel hôpital elle est attachée et je te téléphonerai. À quelle heure seras-tu à ton hôtel? Vers 7 heures, et si je n'étais pas là. Cette hésitation dans sa réponse indiquait déjà son incertitude sur cette visite à son grand-père, qui faisait pourtant le principal objet de sa présence à Paris. Eh bien, si tu n'es pas là, je prierai le portier de ton hôtel de te transmettre simplement le nom de l'hôpital. Je suis de garde et si tu as quelque autre détail à me demander, téléphone à la Hennec. C'était rendre à Marcel sa pleine liberté pour sa visite. Aussitôt seul, celui-ci s'achemina en effet vers le lointain boulevard Suchet où habitait le vieil industriel. Comment celui-ci allait-il le recevoir? Affectueusement? Alors il le retiendrait sans doute à dîner, et dans ce cas, il faudrait attendre pour savoir le nom de cet hôpital où travaillait Mademoiselle Gauthier. Cérémonieusement, rendrait-il son petit-fils solidaire de la querelle familiale qui durait depuis des années? Aborderait-il tout de suite cette question du prêt d'argent avec l'idée que le jeune homme arrivait comme messager de son père? Le malheureux garçon agitait lui-même ses pensées, tandis qu'il suivait à pied le boulevard des Invalides, les quais et l'avenue du Trocadéro. Ses yeux de provincial s'étonnaient de la manie constructive qu'il constatait en rencontrant à chaque détour de rue des débris de vieilles bâtisses en voie d'être jetées à terre ou des façades de maisons neuves à 8 étages. Que ce mouvement général eût entraîné Marcelin Brochet dans une nouvelle série d'entreprises, C'était trop naturel, étant donné toute sa vie, et trop naturel ainsi que ses affaires de construction comportassent des risques considérables. Le quémandage de la lettre s'expliquait ainsi. Nul besoin d'imaginer une influence féminine ou un coup de bourse imprudent. L'aspect de ce long boulevard Suchet s'accordait trop avec l'hypothèse de quelque grosse erreur spéculatrice. Les mots « d'appartement à louer avec confort moderne » se lisaient sur trop d'écriteaux aux portes et aux fenêtres de ces maisons neuves. Les sociétés qui les construisaient, et par conséquent leurs chefs, devaient subir des menaces de faillite. Marcelin Bréchet n'était-il pas un de ces chefs ? Il habitait un des étages d'un de ces édifices somptueux. C'était bien le logis des spéculateurs comme lui, sans mesure de leurs jours d'optimisme et d'espérance, quitte à engager leur honneur. Marcel vit distinctement ces syllabes, écrites d'une plume nerveuse, dans la lettre de son grand-père. Il s'arrêta devant la ferronnerie de la porte, et voici qu'il se retira dans ce nez. Son énergie défaillait devant la perspective de cette première entrevue avec ce vieillard qu'il venait d'espionner. Il lui fallait bien se prononcer ce mot, toujours vil et qui devient sacrilège lorsqu'il s'agit d'un aïeul. « Bon, je reviendrai quand je serai mieux renseigné. » Il allait, en se prononçant cette phrase dilatoire, une automobile à laquelle il donna l'adresse de la Bibliothèque nationale. Il allait se réfugier dans son métier d'universitaire, dont la veille encore il se lamentait auprès de son collègue Chardon. En cours de route, signe nouveau de son intime agitation, il changea encore d'idée et demanda au chauffeur de l'arrêter sur la route, mais à une rue et à un numéro qui n'était pas l'adresse de la bibliothèque. Un agent de change demeurait là, du nom d'Ennebeau, que son père lui mentionnait autrefois comme s'étant à une époque chargé heureusement des intérêts de son grand-père. À l'heure de la bourse, il y avait bien des chances pour que l'agent de change ne fût pas là. Mais il y était cependant, et il accueillit le jeune homme sur la présentation de sa carte avec une cordialité qui fit du bien à Marcel. De ce côté-là, il n'y avait donc pas lieu de s'inquiéter. « Ah, vous êtes le petit-fils de mon client et ami, M. Marcelin Bréchet. Vous ne venez pas m'annoncer de mauvaises nouvelles de votre grand-père. Oh, je ne l'ai pas vu depuis si longtemps. » C'était répondre d'avance aux questions que le jeune homme se préparait à poser avec un peu de honte. Il se contenta de dire qu'il venait saluer M. Hennebeau de la part de son père, lequel avait eu, pour un important placement, plusieurs années auparavant, beaucoup à se louer de l'agent de change. Celui-ci demeurait évidemment un peu étonné par ce prétexte d'une visite que Marcel, une fois rassuré sur cette partie financière de son enquête, ne prolongea point, et négligeant sa première idée d'une séance à la Bibliothèque nationale, il rentra à l'hôtel des Quatre Nations pour écrire à son père une lettre officielle et qui disait son heureuse arrivée à Paris. Il griffonna ensuite une note confidentielle qu'il rapporterait à Nevers comme le compte-rendu de cette première journée. Il attendait, non sans une impatience grandissante, le téléphonage de Cortet, qui pourtant arriva plus tôt en avance et qui lui apprit que Mademoiselle Paul Gauthier était laborantine à l'hôpital des enfants malades rue de Sèvres. Il est près de 6 heures, se dit-il en regardant sa montre. C'est le moment où le travail des infirmières doit s'arrêter. Si j'allais à cet hôpital, quoi faire puisque je ne connais pas celle-là, même de vue? Bon, tentons quand même la chance. Cette première journée donne déjà quelques résultats inespérés. La rencontre de Cortet, la visite chez Hennebeau, ce renseignement sur l'hôpital de Paul Gauthier. Oh, essayons toujours d'avoir quelques nouveaux renseignements. Il allait en effet, contre toute vraisemblance, en obtenir un et de premier ordre qu'il ne pouvait pas prévoir. Les anxiétés comme la sienne ont leur divination, qui ne sont un hasard qu'en apparence. Creusant avec une logique minutieuse toutes les hypothèses, elle rencontre sans cesse quelque élément de vérité. Après avoir étudié sur un plan de Paris affiché dans le bureau de l'hôtel le plus court chemin pour arriver aux enfants malades, il s'engagea par la rue des Écoles et gagna la rue de Sèvres. En 20 minutes, il avait dépassé l'angle de cette rue et du boulevard Montparnasse, et il se trouvait à la porte de l'hôpital. Plusieurs femmes se pressaient d'en sortir, évidemment des infirmières qui se retiraient, comme il l'avait prévu, leur journée faite. Elles allaient d'un pas hâtif, habillées les unes élégamment, celles-là simplement correctes. Un autre jeune homme se trouvait là, immobile, et qui attendait comme Marcel. À un moment, cet inconnu s'avança vers une des jeunes filles, jolie, avec de grands yeux noirs, dans un teint pâle, qui s'animèrent d'un regard plus vif à l'approche du jeune homme. « Oh, on est en retard !» disait celui-ci. Oh, « J'ai une analyse un peu délicate à terminer, et j'ai pas voulu quitter le labo sans que la question fût au point. » « Il y a des jours, je crois que tu me le préfères, ce maudit labo. »« Non, je l'aime et je t'aime, » répondit-elle en appuyant son bras sur celui de son amoureux. « Toutes ces petites sont-elles des laborantines ?» se demandait Marcel en regardant s'en aller ce couple parmi les groupes qui se dispersaient en tous sens. « Le labo, semble-t-il, est propice aux édiles. Si c'était sur celle-là que tique mon grand-père, « oh, il n'aurait pas mauvais goût. Mais les 100 000 francs pourraient bien passer dans la poche de ce joli garçon. » Chapitre 3. Marcel ne se serait pas tenu un autre discours s'il eût pu deviner que son attente à la porte de l'hôpital l'avait mis à son insu, en présence même de cette mystérieuse Paul Gauthier, soupçonnée d'exploiter le vieillard, isolé de sa famille, qu'était Marcelin Bréchet. Mais le petit-fils gardait à travers une séparation de tant d'années trop de respect à l'égard de son grand-père pour ne pas reculer devant l'idée d'une duperie aussi déshonorante que dangereuse. Il fallait à tout prix tirer au clair les rapports de la laborantine inconnue et de l'homme d'affaires. Cette fois, l'enquêteur n'hésitait plus. La visite au boulevard Suchet ne devait pas être différée et dès le lendemain, il sonnait de grand matin à la grille de la somptueuse bâtisse devant laquelle il hésitait la veille. « Comment va-t-il me recevoir et même me recevra-t-il ? Certainement il croira que j'apporte la réponse à sa lettre, mais que lui dirai-je ? » se demandait-il après avoir remis sa carte à un personnage mi-domestique, mi-secrétaire, qui attendait dans l'antichambre, presque dénuée de meubles. De grandes glaces et des panneaux de bois noir, moirés, dénonçaient des projets de luxe interrompus, et voici qu'un vieillard entrait, tenant la carte à la main. C'était le grand-père, et il prenait dans ses bras son petit-fils, avec une émotion expansive qui devait étonner le témoin de cette scène, habitué chez son patron à d'autres attitudes. « Mais pourquoi ne pas m'avoir prévenu, mon petit Marcel ?» disait l'aïeul bouleversé en entraînant le jeune homme dans son bureau. « Mais tu aurais logé ici, oh, que je te regarde. Oh, tu es bien un vrai Bréchet. T'en as les yeux, les cheveux, la belle carrure verdiâtre. Donne-moi des nouvelles des tiens. Ton père est pas malade qui ne t'a pas accompagné. » Un regard inquisiteur luisait dans ses prunelles. Évidemment, il pensait à sa lettre dont il ne voulait pas parler le premier. Mais le fond affectueux de sa nature l'emportait sur toute autre préoccupation, et il continuait, multipliant ses questions sur la vie de son fils à Montigny, sur celle de son petit-fils à Nevers. À peine nomma-t-il sa bru dans une phrase incidente, témoignant ainsi d'une persistance rancune. Il voyait en elle une des causes de son isolement, il lui en voulait. Était-il possible que cet homme âgé, dont les sentiments familiaux restaient si vifs, fût le héros d'un drame de luxure abjecte et qu'il méditât de dépouiller son fils, par suite son petit-fils, d'une somme considérable au profit d'une honteuse liaison? « Je suis venu à Paris, » répondit Marcel à des demandes hâtives et multipliées auxquelles un regard fixe donnait un sens inquisiteur, « pour quelques recherches à la Bibliothèque nationale sur la thèse que je prépare. » Il en dit le titre, qui provoqua cette exclamation du grand-père, évidemment résolu à ne faire la moindre allusion à sa propre lettre. « Oh, décidément, les Romains ont conquis la Gaule, puisque les descendants de ceux qui se battaient contre eux à Gergovie ou à Mergogne, tu as lu la controverse sur ce point de notre histoire, s'occupent du dieu Janus et du culte qu'on lui rendait. » Comme il énonçait cette phrase, qui prouvait combien l'Auvergnat, chez lui, s'intéressait encore aux problèmes de l'histoire locale, le domestique secrétaire vint lui passer une autre carte de visiteur. « Oh, je vais le recevoir tout de suite, » dit-il. Et à son petit-fils, « C'est un des gros actionnaires de notre société et qui doit nous verser aujourd'hui même une forte somme. Deficiente pecu, deficit omne nia. » Quand l'argent manque, tout manque. Ce vers latin perdique, c'est pour monsieur le professeur. Il s'était levé et forçant Marcel à se rasseoir lui-même. Ben, « Tu vas peut-être m'attendre un peu de temps. Janus ne t'en voudra pas et tu auras les journaux à lire. » Il lui entendait plusieurs qui s'entassaient sur la table. « Et puis alors, c'est entendu, je te t'emmène déjeuner. » Quel homme actif, se disait Marcel en regardant non pas les journaux, mais les papiers accumulés dans une magnifique bibliothèque. Et que de dossiers! Que d'affaires! Il y a vraiment deux choses inexplicables. L'une qu'il ait besoin de nous emprunter 100 000 francs, vivant dans ce luxe. Il s'étonnait de plus en plus du décor du salon. L'autre qu'il se laisse exploiter par une infirmière du type de celle que je voyais bien au sortir hier de l'hôpital. Il est certainement sur le bord de la fortune, encore une fois. Mon père me l'a si souvent décrit dans ses avatars différents. Ou bien serait-il de nouveau à la veille de sombrer dans son affaire de bâtiment mal géré? Mais non, ce gros actionnaire apportant la forte somme a donc confiance, et grand-père aussi a confiance. À coup sûr, il n'a pas l'air inquiet. Quel contraste entre cette riche habitation et ce milieu d'hôpital dont je garde l'impression dans les yeux. Si cette fille le trompe en l'exploitant et qu'il l'aime, mais comment n'en a-t-il pas tiré? Mais je comprends que mon père, si régulier, si strict, si conformiste, comme dirait ce bolcheviste de Chardon, le parfait fonctionnaire, n'ait pu s'entendre avec lui. Tous deux, cependant, sont bien des Auvergnats de cette race du plateau central qui se resserrent sur eux-mêmes, se terrent dans leurs habitudes ou bien se déchaînent dans l'espérance. Et alors, ils hasardent tout. Ils ressemblent à leur pays avec ses grandes coulées de lave immobile et à l'horizon une chaîne tumultueuse de cratères, les Vésuves d'hier et de demain, sans doute. Et moi, je tiens de ces deux caractères, et par ma mère à cette Bourgogne où, tour à tour, ont habité les Éduins, ces alliés de Rome, puis les colonies germaines, les Sarmates, puis les Burgondes, puis les Sarrasins. Que de troubles dans le passé de cette province, qui fut pourtant le premier duché prairie de France. Auvergnat et Bourgogne, quelles hérédités! Ah, d'où mon incertitude intérieure! Rattachons-nous à l'humble devoir, découvrir la vérité sur la crise que traverse mon grand-père. Et avec cela, me voici bien loin de ma thèse. Il faudra pourtant y penser aussi, aller à la Bibliothèque nationale cet après-midi. L'incohérence de ces réflexions avait pourtant son unité. Elles attestaient ce mélange si particulier de réminiscences historiques et de scrupules personnels qui se rencontrent chez tant de jeunes professeurs. Marcelin Bréchet, cependant, rentrait de son entretien avec le gros actionnaire. Il parlait aussitôt de cette thèse qui venait de hanter de nouveau son petit-fils. « Mais quelle raison t'a donc poussé à t'occuper de Janus ?» lui demanda-t-il. Marcel, ému de cette identité de préoccupation, se laissa aller en répondant à parler de lui-même avec une vérité qu'il n'avait pas avec son père. Mais tout enfant, vous rappelez-vous, grand-père, que vous me reprochiez d'être curieux? Oh oui, tu remarquais tout. Je me souviens, au baptême de ton cousin Monestier, à Chauriat, tu me demandais: grand-père, cet enfant de cœur, qu'est-ce qu'il voulait qu'on apportât en disant toujours Amen, Amen? Cette curiosité de petit garçon, répliqua Marcel, attendri encore par cette évocation des temps d'union familiale, c'était le goût de savoir qui n'a fait que grandir avec l'âge. Ce goût m'a décidé à être cette carrière d'universitaire qui suppose des études poussées assez loin. Elle comporte aussi, dans les postes de début, des obligations assez décevantes. Et pour m'en débarrasser, il faut que je sorte des classes du lycée et que je passe à une chaire de faculté. Ce passage exige le doctorat. L'histoire des idées religieuses m'a intéressé. J'ai été naturellement conduit à m'occuper de leur origine. Aux environs de l'église de Vézelay, il y avait les ruines d'un temple que je visitais tout enfant et dont mon père me dit qu'il avait été celui d'un dieu à deux visages, appelé Janus. Ces deux visages m'intriguèrent et voilà comment je fus conduit à étudier le culte de Janus en Gaule. Ah! s'écria le grand-père, que tu es bien de mon sang, de celui du vieux Bréchet, qui n'a pas pu se contenter de l'échoppe de tailleur de son père. Il a sauté à l'Hôtel-Dieu de Clermont, puis de Clermont à Paris, où il finit par remplacer le grand Dupuytren dans son service pour lui succéder à l'Institut. Quelle étape! Je te vois également de ton lycée de province montant à la faculté dont tu rêves, et pourquoi pas toi aussi à l'Institut. Tu as raison, vois-tu. Oser entreprendre, c'est ça vivre, ne jamais se contenter de son sort. On ne réussit pas, ben on recommence. N'ai jamais compris ton père de s'être complu à la monotonie de son existence de fonctionnaire. Quand nous en parlions, il disait sécurité. Moi, je répondais risque. J'ai dans mes entreprises traversé quelquefois de mauvaises périodes et toujours j'ai recommencé. Encore aujourd'hui, tu vois, dans cette société de construction que j'ai fondée, il y a des heures difficiles. Bon, j'en triompherai et mon petit-fils sera ce personnage peu commun, le Sorbonnard millionnaire. Marcel, en écoutant ses propos, songeait. Mais le motif de sa demande de prêt de 100 000 francs, le voilà. Une de ses difficultés. Peut-être la venue du gros actionnaire l'en tire-t-elle déjà qu'il n'en parle plus? Ou avais-je la tête d'imaginer une basse aventure sentimentale à son âge et avec cette fièvre d'activité? Et il écoutait son grand-père continuer. Mais pensons à toi, une thèse, ça s'imprime, ça se publie chez un éditeur. Oh, la mienne, dit Marcel, n'est encore qu'en projet, à peine commencée. N'importe, répondit le vieil optimiste, il faut dès maintenant préparer les voies. Je connais justement une maison d'édition où je vais te mener pour que tu causes avec le secrétaire, un jeune homme que j'ai pu placer là. Il s'appelle Gauthier. Son père était un de mes garagistes quand je m'occupais d'automobile. Cet homme est mort à mon service dans un accident et j'ai considéré comme mon devoir de m'occuper de ses enfants. Il y en avait deux, une fille et un garçon qui réussit très bien chez son patron auquel il voudrait succéder quelques jours. On l'y aidera. C'est encore un des bénéfices de la vie d'affaires. On peut s'appuyer autour de soi des gens qui le méritent. Et ce Gauthier est vraiment digne d'appui. Il connaît des écrivains, des savants, et si je ne me trompe, des archéologues. Auquel cas, ses conseils pourraient être précieux. Gauthier, se répétait Marcel, mais la voilà l'explication de l'intérêt qu'il porte à la laborantine, si elle est la sœur de ce garçon et la fille de l'accidenté. Il est vrai que cette sorte d'intérêt, quand il s'agit d'une jeune fille jolie et galante, oui, ça tourne mal quelquefois. Il se rappelait cette troupe d'infirmières qu'il avait vue sortant la veille de l'hôpital, et l'attitude de celle qu'il avait remarquée, s'en allant tendrement et familièrement au bras de l'amoureux qui l'attendait. Qui se fut ainsi rencontré dès le premier soir de son arrivée à Paris avec cette Paul Gauthier qu'il cherchait, comment se le fut-il même imaginé? Mais cette similitude de nom entre le secrétaire de librairie protégé par son grand-père et l'intrigante dénoncée à son père le frappait tellement qu'il ne put penser à autre chose pendant le déjeuner, passé tout entier à écouter ce grand-père qui racontait le travail de sa société, fondée pour exploiter une bande du terrain des anciennes fortifications. Et tandis que vers 2 heures, les deux convives se dirigeaient vers la rue Saint-Guillaume, où se trouvait la boutique de l'éditeur chez lequel Gauthier était employé, il ne s'agissait plus pour le futur docteur de la visite à la Bibliothèque nationale et des savantes recherches projetées sur Janus. Qui est cette sœur et quel métier exerce-t-elle? Cette question occupait tout son esprit et il s'entaisait, comme l'homme d'affaires continuait à se taire sur sa demande des 100 000 francs faite à son fils. Quel rapport pouvait-il y avoir avec l'existence soudain révélée de cette sœur du secrétaire placée par le patron de l'automobiliste mort au service de la maison Bréchet? C'est pourtant à mon usine de papier de Saint-Amant à Landes, disait celui-ci à l'entrée de la rue Saint-Guillaume, en montrant sur une façade l'étiquette « Librairie Gilles Quint », que je dois être en si bon terme avec M. Gilles Quint. Oh, nous nous sommes connus, lui presque enfant à cette époque. Voilà encore un des avantages du métier d'homme d'affaires. Que d'amis il se fait le long de sa vie, pourvu qu'il soit toujours correct. C'est une vieille maison, ajouta-t-il pour justifier l'aspect désuet de l'immeuble, pas trop contraire à ses théories d'audacieuse modernité. Gilles Quint est tout nouveau, lui, dans l'édition. Raymond Gauthier a bien l'intention de transformer la boutique si jamais il en devient le chef. Il a déjà introduit quelques nouveautés dans ses vitrines, d'où l'on va exposer les derniers volumes parus, avec la photographie des auteurs. Mais allons à son bureau. C'est lui qui surveille la vente pendant que Gilles Quint dirige les comptes et signe les traités. La pièce attenante à la boutique où se tenait le protégé de l'industriel était étroite et sombre, mais rangée avec un soin qui prouvait l'esprit d'ordre de l'employé. Il se leva pour saluer l'ancien patron de son père, et Marcel crut remarquer sur son visage une certaine expression de gêne qui contrastait avec la cordialité du vieillard. Toujours préoccupé des relations de celui-ci avec la laborantine et par la possibilité d'une étroite parenté de cet inconnu avec ce jeune homme du même nom, il pensa du coup que ce dernier éprouvait une secrète défiance vis-à-vis du bienfaiteur qu'il avait pourtant placé là. Mais d'où pouvait provenir cette défiance, sinon d'un soupçon ? Marcel allait, dès les premiers mots, apprendre que l'employé de librairie était en effet le frère de cette Paul Gautier, dont la recherche était l'un des motifs de son voyage à Paris, et qui devait intéresser bien vivement son grand-père, d'après sa première question. « Comment va Paul ? » lui demanda-t-il. « Tu l'as vu ce matin ?»« Elle est partie trop tôt, » répondit Raymond Gautier. « Mais maman l'a vue. » Elle était un peu agitée d'une de ces petites malades qui a 2 ans et 1 mois et qui souffre d'un dolicocolon pelvien. Vous savez, comme elle prend son métier à cœur, son labo, c'est toute sa vie. Et je te présente quelqu'un d'aussi laborieux qu'elle, mon petit-fils, Marcel Bréchet. Oh, je l'ai amené ce matin pour que tu l'aides. Professeur à Nevers, il est venu à Paris pour étudier la préparation de sa thèse du docteur. Il la fera imprimer chez vous, cette thèse. Ça, c'est pour plus tard. Dès aujourd'hui, tu peux lui rendre service. Cette thèse porte sur un dieu romain. Vous avez bien parmi vos auteurs quelqu'un qui s'occupe de mythologie païenne. En effet, répondit Gautier, et le plus compétent qui soit dans la matière... « Oui, mais monsieur connaît certainement son nom, le père des Margerets. »« Ah, l'auteur du symbolisme dans la sculpture antique, cet ouvrage capital ?» fit Marcel. « Mais qui réimprime ici en ce moment ?» dit Gautier. « Sur quoi roule votre thèse ?»« Sur le mythe de Janus en Gaule. » J'en parlerai au père. Oh, il se fera un plaisir de vous en établir un dossier. C'est sa manie. Une thèse, ça donne un volume du type de ceux-là. Il montrait les ouvrages qui s'étalaient sous la vitrine destinée aux nouveautés. Ces livres, on l'a déjà dit, s'accompagnaient, suivant la mode actuelle, d'une série de photographies de leurs auteurs. Marcel se mit à regarder celle-ci de son œil de provincial, toujours intéressé par les physionomies des vedettes parisiennes. Se trompait-il ? Voici qu'il crut reconnaître, parmi 6 ou 7 autres, avec un étonnement stupéfié, le visage du jeune homme qui attendait la veille à la porte des enfants malades, la sortie des laborantines, et qui s'éloignait avec la plus jolie d'entre elles. Comme il considérait ce portrait avec plus d'attention, Gautier lui dit « Ben, c'est un de nos auteurs les plus nouveaux, un monsieur Alfred Arny, jusqu'ici un poète obscur, mais qui est décidé à écrire des romans. Le second vient de paraître, il est très à la page et il a un succès. Son volume s'appelle « Le lac caché ». Ben, « Je vais vous le prendre, » dit Marcel, « je n'ai rien à lire et cette figure m'intéresse. »« Vous mettrez l'exemplaire sur mon compte, » dit Marcelin Bréchet, « car moi aussi je suis un client de la boîte. Je ne suis pas un littérateur, assista-t-il, mais grâce à Raymond, me constitue ma petite bibliothèque auvergnate, où figure une bien intéressante biographie de notre ancêtre, le chirurgien. » Si je reste un partisan déterminé de la nouveauté dans les entreprises, nous les menons à bien, je me rends compte qu'avec les facultés que nous héritons de nos morts. Et moi, j'ai hérité de l'aïeul. Il regardait sa montre. Le scrupule de l'exactitude. J'ai rendez-vous à 3h30, boulevard Suchet. Juste le temps de m'y rendre. Où veux-tu que je te dépose, Marcel ? « Il est trop tard pour aller à la Bibliothèque nationale, » répondit le jeune homme. « Je ne suis pas loin de la rue des Écoles, je vais rentrer à pied chez moi et lire ce lac caché avant le dîner. »« Tu me diras ce que tu en penses, » fit le grand-père. Il eut une expression dans les yeux qui s'accordait trop avec quelques-unes des idées éveillées dans l'esprit de son petit-fils. L'homme d'affaires amoureux savait-il l'intimité de l'écrivain avec la laborantine? Car c'était bien Arnie qui attendait la veille à la porte de l'hôpital, et celle qui l'attendait, c'était peut-être Paul Gauthier, la sœur de Raymond. Était-il possible que les deux amants eussent conçu le projet d'extorquer les 100 000 francs demandés dans la lettre de Nevers? Il fallait d'abord être sûr qu'ils fussent amants. Tel était l'intérêt suscité chez Marcel par le mystère des relations de Paul avec l'un et l'autre des deux hommes que, tout en suivant le trottoir du boulevard Saint-Germain, il commença de feuilleter le volume qui pouvait lui révéler le caractère de Arnie. N'ayant pas de coupe-papier qui lui assura une lecture suivie, il demeura étonné, dans les quelques pages lues de ci de là, par l'accent d'une exaltation presque mystique. Le héros du lac caché se dévouait moralement à une femme qu'il aimait sans le lui dire, et dont le mari était son meilleur ami. Le roman, qui se passait pendant la guerre, se terminait par une scène d'une invraisemblance et d'un romanesque extraordinaire, où l'amoureux, blessé grièvement sur le champ de bataille et agonisant, avouait à son ami qu'il avait passionnément aimé sa femme et lui demandait de le lui dire quand il serait mort.